Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois celui dont le feed Instagram est devenu absolument viral avec ses citations manuscrites. Thomas Lélu est artiste plasticien, photographe, mais aussi romancier et artiste-interprète. Son rapport à la mode, c'est ce que nous allons voir. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de passer dans Chiffon. Alors, quel parcours? Tu as un talent multicarte. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours?
Oui, alors je peux faire un résumé.
Un petit résumé, très court.
Alors donc...
Tu es né à Seclin,
c'est ça? Je suis né à Seclin, dans le Nord, à la fin des années 70, dans une famille hippie. Et assez rapidement, je pense, j'ai développé... on va dire des qualités artistiques et qui m'ont mené à faire de la peinture très très jeune et du dessin, beaucoup de dessin.
À quel âge?
Très très vite, je dirais au collège, ça s'est particulièrement développé de manière assez compulsive. Puisque je dessinais pendant les cours, où j'avais plutôt des bons résultats, mais il y avait vraiment, ça ne me suffisait pas, disons, pendant les cours.
Pour toi,
là,
c'est un moyen c'était un moyen de libérer quelque chose?
Je pense que j'étais plutôt bon élève, mais quelque part, il me fallait plus. Il y avait autre chose, il me manquait quelque chose à l'école.
T'as fait des études.
Et donc, du coup, je dessinais tout le temps. Je faisais aussi beaucoup de sport. Enfin, j'étais un enfant un peu hyperactif. J'ai pas été diagnostiqué, mais je pense.
À l'époque, ça se faisait pas trop.
Ouais. Alors, en plus, moi, je viens d'une famille où ma mère était éducatrice spécialisée, puis psy, psychanalyste. Donc, hippie, tout ça. Et donc, du coup... c'est vrai qu'on n'avait pas forcément creusé trop. On était plus dans l'épanouissement personnel. La liberté.
Ouais, mais c'est vrai que c'est différent de notre époque. Tu avais une éducation positive, c'est ça, ce qu'on appellerait maintenant?
Je pense qu'il n'y avait pas, l'obsession forcément de ce truc autour de savoir si on est en bonne santé, savoir si on fait les choses toujours bien. Enfin, il n'y avait pas cette espèce de... Il y a une obsession contemporaine par rapport à ça.
Ouais, tu étais un peu un électron libre.
J'étais un électron libre et puis j'étais très très libre. Mes deux parents travaillaient, ils me laissaient un peu faire l'école buissonnière.
Et t'as fait des études d'art?
Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que donc, le frère de mon père, qui était éducateur, conseiller d'éducation, pardon, m'a plutôt encouragé à faire donc après A3 ou F12.
Alors, traduire pour les jeunes qui nous écoutent, alors A3, bac c'est A3, c'est littéraire, art plastique. Oui, c'était art plastique.
Art plastique. Et F12, c'était art appliqué, donc dans un lycée technique, avec plutôt donc, des bases en maths, tout ça. Et donc, j'ai choisi la filière F12 à appliquer, qui est en fait une sorte de prépa pour les grandes écoles d'art. Et ensuite, j'ai tenté les beaux-arts, j'ai été recalé, ce qui a été très, très dur pour moi à avaler. Et... parallèlement à ça, j'ai été pris aux Arts Déco à Paris. Et donc, je suis arrivé aux Arts Déco. Et aux Arts Déco, je dirais que ça... Bon, j'avais déjà ça dans mon ADN, mais ça a poussé, disons, l'aspect très curieux de ma personne, y compris moi, d'être une personne curieuse pour les autres et curieuse vers les autres.
C'est bien dit. C'est joliment dit.
Oui.
Oui, oui.
Bah, merci.
Oui. Je sais tu te sens dans quelle matière tu t'épanouis le plus direction, à la direction artistique, l'art, la chanson, parce que j'ai vu que tu étais artiste-interprète.
Non.
Bah, ah, c'est ce que j'ai lu dans ta page Wikipédia.
Non.
Tu as poussé la chansonnette une fois.
Oui, oui, voilà, plus pour des potes sur des projets comme ça, rigolo, mais...
Oui, t'as fait quelque chose avec Philippe Catherine.
Voilà, j'ai fait de la DA pour
de la DA.
Un clip et j'avais travaillé sur le CD qui s'appelait Border Live sur tournée à l'époque.
T'as écrit aussi 3 romans, c'est ça?
J'ai écrit, alors je sais même plus, non, un peu plus, hein, je crois, il y en a 5, il me semble qu'il y a 5 romans.
Quand même, alors quand je te dis, en fait, t'es hyper modeste, parce que quand je te dis, t'es aussi romancier, tu dis, oh, ben non, ouais.
Non, parce que je me suis jamais considéré comme écrivain, moi. Je l'ai toujours dit comme ça, c'est-à-dire, moi, je suis beaucoup plus, je pense, un plasticien qui est venu à l'écriture. Et en fait, très concrètement, comment ça s'est passé, j'ai fait 2 premiers livres, dont le manuel de la photo ratée et un livre qui s'appelait Récréation. Et ensuite, mon éditeur à l'époque, Léo Cher, m'a dit « maintenant, il faut que tu écrives un roman ». Comme si c'était...
C'est quand même très dur d'écrire un roman.
Logique, ouais. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit « attends, en plus, moi, mon père était prof de lettres, assez spécialisé dans le nouveau roman, André Gide et compagnie. Et donc... J'étais là, genre, ouais, d'accord. C'est comme si tu demandes à quelqu'un, tu veux pas faire un opéra, s'il te plaît, pour la semaine prochaine, oui. Et en fait, moi, en tant que plasticien, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais imaginer comme livre que j'aimerais, moi, trouver dans une librairie.
Ah, c'est pas bête.
Parce que je me suis dit, je serais jamais Marcel Proust, je serais jamais Victor Hugo, je ne sais pas. Je ne sais pas bien écrire. Enfin, moi, je lis beaucoup et je vois des livres où je me dis waouh, je tourne les pages. Quel
talent.
Quel talent, quoi. C'est indéniable. Et donc, je me suis dit comment je pourrais. Un peu comme une commande, c'est ça, en fait. Mm-hmm. Et donc, je me suis dit, je vais mettre le plus de choses qui me font rire dans un livre.
Eh ben, moi, je peux t'assurer que je vais les acheter après notre rendez-vous. Alors. Ce qui nous réunit là ce matin, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Tu as 437 000 followers grâce à tes... Alors, j'appelle ça... Donc, tu dis des quotes, mais des citations écrites à la main. Comment tu as eu... Comment?
Au stylo Bi.
Au stylo Bi. Bic.
Bic, ouais, principalement.
J'espère tu t'es fait sponsoriser par Bic, j'espère.
Non, pas encore.
Bah, faudrait. Alors, comment ça a commencé quand? Et comment tu as eu l'idée?
En fait, la visibilité accrue sur Instagram, elle est effectivement récente et j'ai vraiment développé ce travail finalement il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire en octobre, je dirais. Mais le travail autour du texte, en vérité, ça fait 20 ans en fait, que je fais ce genre de choses.
Que tu crées des petites citations
que
comme
j'écris,
ça, tu notes.
Que j'écris des phrases, que je reprends des phrases qui viennent de partout, hein, ça, de tags, de citations de films, vraiment de partout. Et en fait, je fais des choses comme ça depuis 20 ans. J'ai fait pas mal d'expos, puisqu'on parlait de ça en introduction, mais avant Instagram, moi, je faisais des expos dans des galeries, dans des musées, et il y avait déjà en fait des textes comme ça en grand sur des toiles ou des panneaux en bois. Et finalement, il y a un an, on va dire à peu près, sur Instagram, j'avais fait d'autres choses avant. J'avais fait des fausses pubs, j'avais fait des philo selfies, j'avais fait toute une série d'images où je posais des fruits ou des bonbons sur des images, enfin des séries à chaque fois. Et puis dernièrement, j'étais un petit peu arrivé, je tournais un petit peu en rond, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et ne sachant en fait pas trop quoi faire, je me suis dit, je vais revenir à ce que je fais depuis 20 ans, au basique. Donc des phrases,
sur du papier
des carnets A5 de base.
Donc tu prends en photo et tu balances.
J'écris une phrase. Alors au début, il y avait marqueur aussi, puis finalement le stylo Bic s'est un peu imposé de lui-même. aussi parce que j'ai vu les réactions du public.
Mmh. Moi, je trouve ça simple, chic, efficace. Comme je dis, c'est...
Et ça parle à tout le monde, c'est vraiment tout le monde...
C'est ce que je te disais en préparant l'émission, c'est à la fois léger, drôle et subtil, parce que tu passes des messages.
Oui.
Alors moi, je dois t'avouer
que... Oui, c'est la différence, pour finir par rapport à ça, c'est qu'à l'époque, dans mes premiers travaux textuels, il y avait quelque chose de plus performatif, de plus provocateur, de plus aussi, il y avait un lien avec l'idiotie, une forme de régression. Quelque chose comme ça.
La provoque un peu aussi
peut-être, oui, une forme de provocation pour me faire remarquer. C'est vrai que là, maintenant, j'ai pris un peu d'âge. Et je pense que la démarche a évolué. Mmh. Elle est devenue plus prosélyte, ou pédagogique. Ou, en tout cas, il y a cette idée de transmission, de partage et de... comment dire, d'aller-retour avec l'autre.
De toute façon, tu écris des citations pour des marques aussi maintenant.
Oui, de plus en plus.
Ouais. Bah, il y a eu des t-shirts Bache cet été.
Ouais.
Il y a Jérôme Dreyfus, Châtel, je crois.
Chantel. Chaumet, LVMH.
Est-ce que tu sais.
Courtenay Kardashian.
Non, c'est vrai.
Si, ouais, pour Push, là, son
média. Ah oui, son truc, oui, ouais. Sa boîte. Est-ce que tu sais laquelle a fait vraiment le buzz? Non, parce qu'en moyenne, c'est 700 000 likes. Enfin, ça va de 400 000 à 700 000 likes. C'est ça?
Non, la moyenne, non. Non. La moyenne, c'est 30 000 à peu près.
Ah oui, mais certaines arrivent à...
Mais certaines explosent les compteurs, dont I Need a Hug on Six Months of Sleep. Hein. Mm. Donc, celle-là, elle a fait 732 000.
Bon, moi,
ma préférée, c'est un peu à part.
Ma préférée, c'est Offline is the new luxury.
Oui.
Je trouve ça hyper osé d'écrire ça sur Instagram.
Oui, et après, c'est certain que.
Quand tu as écrit par exemple cette phrase, qu'est-ce que tu as voulu dire derrière?
Ouais, beaucoup de choses. Je pense que c'est une phrase qui dit beaucoup de choses. Pour moi, elle veut dire. Que le nouveau luxe, c'est justement notre capacité à nous en extraire. Donc, il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. C'est ça qui est intéressant. Il y a c'est un oxymore, en fait. C'est à la fois... on parle du luxe comme souvent lié à l'objet. Or, en fait, certainement que quelque part, dans notre contradiction humaine, c'est l'absence de cet objet qui devient le luxe.
Ça me rappelle une histoire de philo, là, pour le bac.
Ouais,
c'est un bon sujet, qu'est-ce que le luxe ?
Mais ce qui est intéressant dans la citation, c'est que justement, c'est une synthèse, mais qu'elle ouvre à la discussion. Et je pense que c'est aussi, ma démarche, elle est aussi là, c'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs que je mets 5 quotes en général par jour sur mon feed, parce que pour moi, c'est... ça reste toujours ouvert. C'est toujours une discussion.
Il y a des gens qui viennent échanger avec toi.
Oui, tout, souvent. Ouais.
L'autre que j'aime, je l'ai d'ailleurs dans mon bureau, c'est Things to do today, wake up, survive and go to back to bed.
Ah, bon résumé.
C'est ma vie. C'est ma vie.
Bah, de beaucoup, beaucoup de personnes. Hein. Il y a un côté... C'est un bon résumé. Il y a un côté un peu laconique, un peu désabusé, mais je dirais que le stylo bic aide beaucoup à faire passer la pilule.
Quel est ton rapport à la mode ? Est-ce que tu...
Alors moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse à la mode depuis toujours, qui a un lien avec le vêtement qui est... Oui, j'ai toujours été hyper attentif aux vêtements et je dirais plus largement au charisme, au style.
Ouais.
Et à la personnalité aussi. Hein,
L'habit fait-il le moine, selon toi ?
Je dirais que... Alors, l'habit, en tout cas pas la marque, pas l'objet, mais en tout cas la manière de s'habiller, donc le style... La singularité joue énormément.
Tu as trouvé ton style ?
J'ai toujours eu un peu le même style.
Là, tu es habillé tout en noir, enfin, jean noir, t-shirt noir, casquette.
Ouais, la casquette, c'est vrai que c'est devenu. Et les lunettes, c'est devenu
Ta signature?
une récurrence. Après, mon style, ça a été quand même assez. Je dirais que j'ai des influences punk quand même. J'ai un lien avec le vêtement quand il est un peu usé, qu'il a un peu vécu. Je suis.
Donc adepte du vintage ou alors tu conserves très longtemps tes
Je
vêtements?
conserve très longtemps les vêtements que j'aime beaucoup, jusqu'à vraiment ce qui décède, quoi. J'ai des coups de cœur, vraiment, hein, comme avec des personnes sur certains vêtements, où ça devient vraiment une partie de moi et un partenaire.
Ah, partenaire, c'est marrant, c'est la première fois qu'on me dit ça en 230 épisodes.
Ah oui, vraiment. Il y a des vêtements, il y a même certaines chaussures, je pourrais dormir avec.
Est-ce que tu les aimes?
Ouais, mais
Et
vraiment.
alors mais tu chopes où en ligne ou tu aimes bien aller dans les boutiques pour toucher les matières? Est-ce que tu es sensible aux matières? Parce que tu es sensible au
Suis
beau.
sensible aux matières. Je préfère choisir, donc toucher, essayer, ressentir. On m'offre quand même pas mal de vêtements aussi. J'ai la chance de pouvoir choisir à peu près ce que je veux.
Et voilà, est-ce que ça t'arrive de dire non?
Bah, y a des vêtements qui ne me vont pas, surtout. C'est plutôt le vêtement qui me dit non.
Quel type de vêtement ne te va pas?
La veste en cuir, ça me va pas.
C'est ce que c'est le vêtement que tu ne porteras jamais?
Bah, j'essaye, mais il me rejette.
Le vêtement te
Le
rejette.
vêtement me rejette, ouais, vraiment.
Et est-ce que tu suis la mode?
Oui, ah bah oui.
Oui, oui, mais tu la suis pour ton boulot, pour tes inspirations. J'imagine que tu suis les Fashion Week. Mais tu sais l'expression suivre les tendances, suivre la mode, être à la
Alors, je suis
mode.
attentif à ça pour mon travail, parce
Ouais.
que au-delà
C'est
de ce que
normal.
je fais sur Instagram, je bosse beaucoup dans la mode, je bosse beaucoup avec beaucoup de marques, je fais de la direction artistique pour des marques, du conseil, des collaborations diverses. J'ai fait beaucoup de presse, de mode, de la production aussi
Ouais, ça
de
c'est au niveau du
films, tout ça.
travail.
Bon. Donc forcément, je suis attentif à ça. Je suis attentif à ça aussi par goût, parce que ça m'intéresse. Et puis après. Je dirais, alors ça paraît très prétentieux, mais j'ai tendance, oui, je suis sensible à la tendance, mais aussi parce que c'est comme si je l'expérimentais moi-même. J'aime bien, depuis toujours, et donc ça, je ne sais pas où est-ce que je me situe par rapport à la mode, mais j'ai toujours été. Dans l'expérience au niveau du vêtement, par exemple, au niveau du style. Et c'est peut-être mon lien avec le punk à ce niveau-là. Mais
Quand tu
pareil.
étais gamin, t'avais la panoplie punk,
Alors,
ado?
punk, non, pas la
Ouais,
crête et tout ça.
ouais,
Mais quand je dis punk, c'est plus. J'aimais bien provoquer, j'aimais bien oser mettre des choses qui ne se mettaient pas forcément. Par
ouais.
exemple.
Genre.
Bah, par exemple, je faisais du volley à l'époque, j'allais au collège avec mon t-shirt de volley
Ah.
que je portais en
Ouais.
haut. Et en plus, moi, j'étais vraiment à la campagne, au collège. Et vraiment, les gens me regardaient, genre, mais mec, il n'y a pas sport aujourd'hui, quoi.
Ouais. Et toi, tu t'en
Et
fichais.
moi, je trouvais ça cool. Et je trouvais ça cool que les gens
Te
viennent me
remarque.
voir et, ouais, d'une certaine manière, me remarquent. Faut dire en plus que je viens de famille hippie, comme ça, qui
Oui, c'est
était
ça. T'as pas eu d'éducation à la mode, j'imagine.
pas du tout. Et même avec des parents qui sont plutôt dans un rejet de ça.
Ah oui, carrément.
Ouais,
Société de consommation,
ça les
peut-être?
intéresse. Bah,
Ouais,
ils sont
ouais.
anti. Ils sont pas anards, mais ils sont. Vraiment, ils comprennent pas. D'ailleurs, ils comprennent pas ce que je fais aujourd'hui dans la vie. Hein.
Oui.
Ça leur dépasse complètement et ça les intéresse pas
Oui,
trop,
j'imagine que
d'ailleurs.
les Instagram, ça ne doit pas les concerner.
Ah, mais alors, pas du tout. C'était très drôle, d'ailleurs, dernièrement, parce qu'on était chez eux avec ma fille qui a 13 ans. Et donc, à un moment, ma fille dit, ah, il y a Kourtney Kardashian qui a riposte une image de Thomas. Et là, genre, le
Ouais.
bide total, genre, complètement. Mais c'est qui? C'est qui, en fait? Ils s'en foutent. Donc, mais en tout cas, voilà. Moi, mon père, il m'achetait principalement des vêtements en solde qu'il achetait dans des fripes ou des trucs, mais des fois horribles, affreux et tout. Mmh. Et moi, j'étais au collège et je voyais, il y avait les bourgeois qui étaient en chevignon avec les Nike Agassi, tout ça.
Ouais, c'est ça.
J'étais
ouais.
là, genre, mince, moi aussi, j'ai envie d'être habillé cool et tout ça. Mais comme je n'avais pas les moyens, à un moment donné, il fallait que je...
Donc, tu t'es démarqué.
Que je crée quelque chose, quoi. Et donc, c'est à partir de là, c'est vrai que je suis rentré dans une rhétorique où, puisque je n'ai pas les sous, je vais être créatif. Mmh. Je vais inventer quelque chose. Donc, je mettais des t-shirts. J'avais quand même ce truc avec les marques. Alors, du coup, j'achetais des vêtements de marque en solde à des prix vraiment défiant toute concurrence. Mais les trucs les plus moches et importables. Mmh. Mais par contre, j'enlevais les étiquettes. Et j'achetais des vêtements qui n'étaient pas de marque,
ouais,
mais qui étaient bien coupés.
Ouais, ouais.
Et je mettais l'étiquette.
Ça, c'est la classe.
L'arnaque.
Mais là, tu m'as dit que tu avais une jeune fille de 13 ans.
Ouais.
Est-ce que tu lui donnes des conseils mode ou pareil, tu la laisses se réaliser seule?
Franchement, je la laisse. En plus, elle est très exposée, du coup, via...
Ton métier.
Via mon métier, via mon environnement et tout, donc... Non, je pense que...
Elle veut bosser dans la mode plus tard? C'est un rêve? Non. Bon, elle est encore jeune.
Elle a plein d'idées, mais ça change, ça peut changer un peu tous les jours. Hein, donc, mais oui. Si...
Alors, comme tu es un homme, quel est ton rapport au costume?
Je crois.
Parce que j'ai beaucoup de femmes, quand même. L'année dernière, dans Chiffon, je n'ai eu qu'un homme. Donc, cette année, on m'a dit non, mais on veut plus d'hommes.
OK.
Les femmes adorent. Quel est ton rapport au costume? C'est le beau costume bien coupé.
Au costume.
Te choisit, c'est le costume pour une cérémonie ou pour.
Ah oui, oui.
Ou c'est conceptuel pour toi?
Alors, moi, les costumes. Alors, j'ai eu une période où j'étais un peu chic.
Un peu chic?
Ouais, j'ai eu ma période un peu chic. C'était il y a 10 ans, 15 ans. Ça correspond. Bah, justement, au moment où j'ai sorti mes premiers livres.
Ah ouais, tu t'es dit, il faut que je me présente bien.
La période où j'étais maigre aussi, quand même, j'avais 10 kilos de moins. Non, mais j'étais vraiment fin. J'étais un peu longiligne, quoi. Et donc, j'arrivais d'ailleurs un peu dans ce monde-là. Je travaillais dans la presse de mode. J'ai sorti mes premiers livres. J'ai eu mes premiers articles, premières interviews, tout ça. Et j'étais beaucoup plus fluet. Et j'avais des petites lunettes Saint Laurent. Et j'avais la petite veste APC.
Ah ouais.
Le pantalon jean bien coupé. Les bottines.
La mèche,
ça.
C'est ça aussi.
Pas la mèche, mais j'avais les cheveux courts. Wasp, quoi.
Ouais.
Et
gendre parfait. Gendre idéal.
Il y avait quelque chose un peu comme ça. Ouais. Et donc, j'ai eu une période comme ça. Et puis, avec l'âge, à un moment donné, j'avais eu envie de prendre un peu de masse. Donc, je suis passé à la salle. Et là, la veste, le costume, c'était plié, c'était mort.
Est-ce que ça correspondait pas aussi à une autre période, à autre chose dans ta vie ou un autre état d'esprit ou alors,
Peut-être. Oui, certainement. Après, j'ai tenté à plusieurs reprises d'y revenir et ça ne me va plus. C'est-à-dire que j'ai plus le physique.
Comment tu te vois au niveau vestimentaire, au style, dans 30 ans?
Dans 30 ans
ah, tu seras... nous serons des vieux papis et mamies alors, dans 30 ans, mais...
Ouais, alors, bonne question.
Tu te vois papy punk ou alors très smart
Ou je reste complètement fidèle à mon style d'aujourd'hui et effectivement, ce sera papy punk. Je pense, vraisemblablement, avec une grosse barbe.
Punk hipster.
Peut-être encore une casquette. Hipster, peut-être un retour. Il y aura sûrement un retour campagne, hein, donc ambiance un peu jardinier, hipster quoi, vieux hipster. Il y a cette option là. Ou alors je m'institutionnalise, je deviens plus une référence.
Le vieux monsieur qu'on va écouter.
On va me considérer de plus en plus comme quelqu'un qui compte. Là, d'ailleurs, j'enseigne cette année là, à Meiningen, je vais faire de plus en plus de conférences, vous voyez, ce genre de truc. Et là, tout à coup, bah, peut-être qu'effectivement, je vais revenir peut-être à la veste, je vais revenir...
Pour avoir
à...
un peu plus d'autorité. La veste te donne un sentiment d'autorité, pas d'autorité, mais de respect, ou qu'est-ce que... Le port
la,
veste.
La veste, c'est...
C'est un peu comme le talon pour une femme.
C'est l'élégance, quoi. Oui. C'est aussi une forme de... Comment dire, quand je parlais de punk, c'est vrai que je vais avoir tendance à m'affirmer. Quand je porte une casquette, tout le monde ne porte pas une casquette. Tout le monde ne met pas des bagues. Ou passe sa journée, ou est en rendez-vous en basket. Je peux avoir un côté... faussement, hein, négligé, ou si, il y a un côté comme un peu.
Pour certains, oui. Mais on est toujours le plus négligé, comme on est le plus pauvre ou le plus con. Tu vois ce que je veux dire?
Je pense qu'il y a une attitude. Il y a une attitude vestimentaire chez moi qui est de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. Que ça te plaise ou non.
Oui, je pense qu'on ne peut pas être. Ouais.
Dans ce sens, c'est vrai que le costume. À l'inverse, c'est je fais l'effort, d'une certaine manière, d'un code vestimentaire qui est associé à une forme de respect, de distinction, d'élégance, d'effort que l'on fait pour la fois pour l'autre, en société. Voilà,
et ça te fait aussi rentrer dans une case, quelque part, non?
Oui, alors après, encore une fois, moi je suis... C'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est l'art et la manière. Voilà. On peut être en costume et être bien habillé, et d'autres sont mal habillés. Donc, après, tout est une histoire de détails. Si c'est bien coupé, ça va être chic. Si c'est mal coupé, ça sera malaisant. Donc, c'est une histoire de millimètres.
Quel est le pire fashion faux pas pour une femme, selon toi?
C'est dur ça comme question parce que je veux pas être juge. Non, après, de manière très personnelle, moi, ce qui parfois peut me bloquer, me mettre une forme de, oui, de crispation.
Une crispation carrément.
Je pense que j'ai une part un peu fétichiste. J'ai un lien avec la chaussure. Qui est d'ailleurs le premier mot que j'ai dit enfant, quand même, faut le savoir.
Ah, chaussures.
J'ai dit chaussures avant papa et maman, quand même. Donc,
ça en dit
c'est... Et donc, c'est vrai que je vais être très sensible à une paire de chaussures chez une femme. C'est-à-dire que je peux vraiment
donc c'est plutôt
tomber amoureux d'une femme qui a un certain type de chaussures. Ça va me...
Ça te parle, quoi.
Ah ouais. Et à l'inverse, je peux rencontrer une femme formidable qui va porter des chaussures qui vont me bloquer et c'est rédhibitoire.
Donc, c'est ce que tu regardes en premier chez une femme?
Non.
Les chaussures, non?
Non, oh, quand même pas, mais ça peut gâcher la soirée.
Mais... As-tu une icône de mode?
Une. Il faudrait en choisir une ou un.
T'en as
bonne
pas
question. Si, bien sûr. Si. Alors, du coup, plutôt masculin pour moi. Mais je vais être sensible à ce que je parlais tout à l'heure, de caractère, de personnalité, de charisme. Évidemment, je dirais Paul Newman, à l'époque.
À l'époque.
Oui, pas en fin de vie, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé, d'ailleurs, là, j'ouvre une parenthèse, c'était pas du tout prévu, mais quand Jane Birkin est morte, on montrait que des photos d'elle,
jeune.
Finalement jeune.
Oui, ça renvoie une forme de nostalgie, parce que je pense qu'on a tous été, à un moment donné, bouleversés par une beauté qui est surréaliste, quoi. Donc,
et une élégance aussi, dingue.
Et une élégance, c'est un tout, hein. C'est un tout, c'est la voix, c'est la posture,
tout.
La manière de parler, la vitesse,
la manière de bouger aussi.
S'il y a certaines personnes, je veux dire, c'est ils viennent d'une autre planète. Donc elle avait ça.
Quelle est ta définition de l'élégance?
Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un équilibre entre en fait tous les éléments qui jouent sur la personnalité de quelqu'un. Et après, ça va être aussi dans le détail.
Est-ce que ça passe par, forcément par une marque de luxe?
Oh ben non. Non. Bah surtout pas. Ça peut même détériorer l'élégance chez une personne, le luxe.
Donc quelqu'un habillé tout en luxe, pour toi c'est pareil.
Bah c'est encore une fois, ça dépend comment c'est fait.
Et
En
comment c'est
fait, c'est
porté,
ça
quoi.
la réalité, c'est que des fois, on va avoir quelqu'un qui va être habillé avec les meilleures fringues de la Terre, les meilleurs cosmétiques du monde, et tout ça, et puis c'est raté. Et puis à l'inverse, cette même personne va s'habiller avec ses fringues à elle, récupérées last minute avant de prendre l'avion, et à l'aéroport, il y a une photo de paparazzi qui va être faite, et en fait, là, elle est parfaite.
Est-ce que tu crois qu'il y a quand même, il y a pas une part d'inné dans l'élégance?
Je pense que l'élégance, c'est quand tu dis inné, de magique, de.
C'est un peu ça quand tu parles d'une personne qui vient d'une autre planète.
Je pense, ouais. Alors après, ça peut se travailler. C'est que ça vient pas non plus de nulle part. Il y a des personnes qui arrivent sur Terre et
Qui ont tout.
qui ont tout. Bon, ça arrive, c'est rare. Mais après, c'est quand même un travail quotidien. Je veux dire, c'est se connaître aussi, c'est travailler, c'est apprendre à se connaître aussi par rapport à la manière de prendre la lumière, la manière de dire bonjour, la manière de se lever de son siège, la manière de. Et ça, en général, ça s'apprend aussi quand même. Alors, il faut être
Ça passe aussi
bien
par de la
accompli
confiance en soi,
de
peut-être.
la. Énormément de confiance en soi, bien que c'est pas le critère principal, parce que des gens qui ont trop confiance en eux, c'est pas spécialement élégant, mais c'est quelque chose à voir avec l'harmonie, en fait. Et c'est comme la magie dans la vie. Vous savez, c'est comme ces moments où on est avec quelqu'un, par exemple, et on passe une soirée, et puis, sans s'en rendre compte, on va passer un moment, quelques secondes ou quelques minutes, où on se dit après coup, ou 5 minutes après, genre, qu'est-ce qui s'est passé?
C'était un peu un moment hors du temps, une rencontre hors du temps.
Oui, ou je sais pas, ou tout ce qui. La lumière,
Et là, on sent l'artiste qui parle avec
la
la lumière.
lumière, le son, les gens,
Le
tout
cadre.
fonctionne, et là, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, bah, certaines personnes, ça fait cet effet-là. On arrive devant ces personnes-là, et. On parle et puis on est là en train de se dire qu'est-ce qui se passe? C'est ça l'élégance. C'est le charme en fait, c'est la beauté d'une certaine manière.
Merci infiniment Thomas. Est-ce qu'il y aura un livre avec des citations? Un petit scoop pour Chiffon ou
Y a,
pas?
oui, il y a plusieurs
Ok.
projets dans les tuyaux.
Bon, à suivre. En tout cas, merci à toi. Merci aux
Merci.
auditeurs de Chiffon. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout en attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.